Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes, à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui, accord portant sur l'échange d'informations fiscales entre la République tchèque et Andorre, début du festival du film Fabiofest à Prague et du football, le Viktoria Plzeň condamné à l'exploit face à Lyon en Ligue Europa. La Chambre des députés a approuvé ce jeudi l'accord portant sur l'échange d'informations fiscales entre la République tchèque et Andorre, dont l'objectif est de lutter plus efficacement contre les fraudes. L'administration tchèque aura désormais notamment la possibilité de vérifier si les ressortissants tchèques paient bien leurs impôts sur leurs revenus et leurs biens dans la principauté, considérée comme un paradis fiscal. Cet accord, également approuvé par le Sénat, doit encore être signé par le président de la République, avant de pouvoir entrer en vigueur. Le ministère des Finances a indiqué qu'il s'agissait du 13e accord du genre signé par la République tchèque. La République tchèque est contre la volonté de l'Union européenne de porter la part des énergies renouvelables à 27% de la consommation énergétique du continent. C'est le Premier ministre Bohuslav Sobotka qui a soutenu cette position devant la commission parlementaire en charge des affaires européennes. Selon lui, la République tchèque, où cette part d'énergie renouvelable est seulement de 12% aujourd'hui, devrait demander à ce que les États membres puissent librement choisir le rythme de leur transition énergétique. La politique énergétique européenne est l'un des thèmes du Conseil européen des chefs d'État qui a lieu ces jeudis et vendredis. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il est également question de parvenir à une baisse de 40% par rapport à 1990 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Un objectif tolérable pour la République tchèque, d'après Bohuslav Sobotka. Les Tchèques ainsi que les habitants de 12 autres États européens pourront bientôt voyager aux Émirats Arabes Unis sans visa. C'est ce qu'a assuré ce jeudi le ministre tchèque des Affaires étrangères, le social-démocrate Lubomír Zaorálek, après une rencontre à Prague avec son homologue émirati Abdallah Ben Zayed El Nahyan. Quelques dizaines de milliers de Tchèques se rendraient chaque année dans ce pays de plus de 8 millions d'habitants situé dans la péninsule arabique. Jusqu'alors, il fallait débourser un peu plus de 70 euros pour obtenir un visa touristique pour les Émirats Arabes Unis. Du cinéma à présent, la 21e édition du Festival international du film Fabiofest ouvre ses portes à Prague ce jeudi dans les salles du multiplex Cinestar Andiel. La soirée d'ouverture est marquée par la remise d'un prix Christian au légendaire réalisateur polonais Andrzej Wajda pour sa contribution à la cinématographie mondiale et la projection de Walesa, l'homme de l'espoir, film retraçant une vingtaine d'années de la vie de l'ancien président polonais et leader du mouvement syndical Solidarnost. Cette 21e édition du festival s'achève le 28 mars dans la capitale avant de se poursuivre dans une douzaine d'autres villes tchèques. On passe au sport et au football. Le Viktoria Plzeň reçoit l'Olympique Lyonnais ce jeudi soir à l'occasion des matchs retour comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Nettement défait à l'aller en France la semaine dernière sur le score de 4-1, le dernier représentant tchèque en Coupe d'Europe cette saison est dans l'obligation de réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale. Plzeň devrait en effet s'imposer 3-0 ou par au moins 4 buts d'écart s'il encaisse un but pour éliminer Lyon. On termine avec la météo, avec un soleil omniprésent et des températures maximales, oscillant entre 20 et 23 degrés. Ce vendredi est une vraie journée printanière. Les Radek sont sans doute ravis, d'autant plus que c'est le jour de leur fête. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information que vous a présenté Pierre Maignan. La suite du programme, c'est maintenant avec Sonia Yaroshova.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Prague à l'écoute de ce magazine consacré à l'actualité tchèque en français. Merci à Pierre Maignan pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce jeudi, nous allons tout d'abord nous pencher sur la communauté des Tchèques dits de Voligné, et ceci dans un moment où le gouvernement tchèque annonce son soutien aux familles d'origine tchèque vivant dans cette région d'Ukraine. Nous reviendrons ensuite sur la conférence internationale dédiée à l'un des plus grands compositeurs tchèques et européens du XVIIIe siècle, le longtemps oublié inspirateur de Mozart, Josef Myslivacek, ainsi que sur le concert grandiose qui a clôturé la rencontre. Enfin, la deuxième partie de notre émission sera consacrée à la rubrique « Pays du tourisme ». Nous visiterons la commune de Bolkov dans les montagnes de Krkonoše, mont des géants en français, ainsi que le musée de Krkonoše à Vrchlabí qui abrite en ce moment une exposition écologique. Très bonne écoute. Mais qui sont donc ces Tchèques d'Ukraine? Qui sont ces Tchèques de Voligné? Et où se trouve cette fameuse Voligné? Telles sont quelques-unes des questions que se sont posées un certain nombre de Tchèques suite à la demande d'aide formulée en début de semaine par une quarantaine de familles d'origine tchèque vivant dans l'oblast de Voligné auprès du ministère des Affaires étrangères. Craignant une détérioration de la situation, ces familles souhaitent retourner dans le pays de leurs ancêtres. Plus de précisions avec Guillaume Narguet.
Comme de l'Irlande, ils sont des milliers et des milliers à cheminer depuis la Bohême vers d'incertaines contrées lointaines pour y chercher un morceau de pain. Publié dans le journal Narodni Listy, ces mots du poète et écrivain Jan Neruda remontent à 1862. C'est à cette époque, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à une époque où la Bohême n'était encore qu'un royaume de l'Empire austro-hongrois, que les premiers colons tchèques, confrontés à la misère dans leur pays, commencent à s'installer en Voligny, rattachée, elle, à l'autre grand empire voisin, le Russe. L'Amérique se trouvant de l'autre côté de l'océan, la Voligny et la Russie, où les terres s'achètent pour une bouchée de pain, représentent alors, à quelques jours de train ou de charrette, la promesse la plus proche de prospérité et avec celle-ci de nouvelle vie. Quelques décennies plus tard, en 1945, à la fin de la guerre, tandis que plus de 2 millions de Tchèques et Slovaques vivent en dehors de leur nouvelle république fondée en 1918, les Tchèques de Voligny, annexés par l'Union soviétique après avoir appartenu à la Pologne, constituent la communauté la plus importante à l'étranger. Mais déjà, suite à un accord signé entre le président Edvard Beneš et Staline, ils seront 33 000 à être rapatriés en Tchécoslovaquie. Près de 70 ans plus tard, c'est sans doute moins par volonté de retrouver la terre de leurs aïeux que par crainte de l'ogre russe que les familles d'origine tchèque désirent quitter leur pays d'accueil dans le nord-ouest de l'Ukraine pour la République tchèque. C'est ce qu'explique le secrétaire de l'association des Tchèques de Voligny, Lubomír Sazetchek.
Co my víme, tak se dá asi o 8 000 osob, což je malý rozdíl, ne tak podstatný.
À ce que nous savons, environ 8 000 personnes sont concernées. La situation la plus critique est en Crimée. Des Tchèques vivent aussi là-bas, mais ils n'entrent pas dans la catégorie des Tchèques de Voligny. Ceux qui vivent en Crimée sont surtout arrivés de Zelov en Pologne et de ses environs. C'était des descendants des exilés qui avaient quitté les pays tchèques après la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Pour ce qui est de la Voligny, le plus grand nombre de Tchèques se trouve dans les environs des villes de Rivne, de Lousk et de Lvov. La situation est relativement calme là-bas et ne les touche pas vraiment.
Cela n'a pas empêché certains d'entre eux d'adresser une lettre au Premier ministre Bohuslav Sobotka dans laquelle ils demandent à ce que la République tchèque accepte de les accueillir. Chargé des affaires relatives aux Tchèques de l'étranger au ministère des Affaires étrangères, Karel Kühnhöl a rencontré les représentants de cette minorité tchèque en Ukraine et selon lui, le souhait des Tchèques de Voligny a de bonnes chances d'être exaucé.
La première démarche est à entreprendre auprès du ministère des Affaires étrangères avec le dépôt d'une demande de reconnaissance de l'appartenance à la communauté des Tchèques de l'étranger. Il s'agit donc pour les demandeurs de prouver leurs origines tchèques. Ensuite, ils peuvent immédiatement déposer une demande de permis de séjour longue durée, un document qui leur permet de s'installer en République tchèque. Cette procédure est donc relativement rapide, à la différence de celle concernant les autres étrangers vivant ou désireux de vivre en République tchèque.
Mercredi, le gouvernement a confirmé qu'il était bien prêt à venir en aide aux Tchèques de Voligny. Les autorités considèrent que la situation de la minorité tchèque est compliquée et nécessite une solution rapide, alors qu'environ 20 000 Tchèques vivent actuellement en Ukraine.
La grande salle du Rudolfinum a accueilli ce mardi 18 mars les plus grandes vedettes, auteurs et interprètes, de l'opéra baroque. L'ensemble Collegium 1704, placé sous la baguette du pétillant Václav Lux, et la ravissante mezzo-soprano américaine Vivica Jeannot ont présenté notamment les œuvres de Joseph Myslivecek. Le concert se tenait en clôture d'un colloque international entièrement consacré à ce compositeur, surnommé « Il Divino Boemo », le Tchèque divin. Admiré par Mozart lui-même, Myslivecek a longtemps été négligé et le regain d'intérêt de la part des spécialistes, musiciens et maisons d'édition n'a été amorcé que très récemment. C'est à l'ambassade de France et à l'Institut italien de Prague que s'est tenue cette semaine la première conférence internationale sur le personnage et l'œuvre de Józef Myslivecek. La manifestation était organisée par le nouvellement fondé Institut Myslivecek pour l'art du XVIIIe siècle. Musicologue de l'université de Hradec Králové, Stanislav Bohadlo, commente les différentes initiatives scientifiques et artistiques, entre autres la première biographie du compositeur publiée en 2009 par l'universitaire américain Daniel Freeman.
Ce qui est important, c'est cette approche pan-européenne, mondiale. Les chercheurs tchèques introduisaient inévitablement dans leurs travaux une espèce de nationalisme exacerbé, ce qui, au final, a été contre-productif d'un point de vue scientifique. C'est pourquoi il est bien mieux que ce soit un chercheur américain qui écrive que Myslivecek est un personnage clé de la musique du XVIIIe siècle et donne des exemples concrets de son influence sur Mozart notamment.
Spécialiste de l'histoire de l'opéra à Naples au XVIIIe siècle, Mélanie Traversier s'est exprimée, pour sa part, sur la redécouverte de Józef Myslivecek en France.
Pour parler de Myslivecek et de son rayonnement en France, je crois qu'il est complètement ignoré en France grâce donc à la recréation de l'Olympiade l'année dernière à Caen et à Dijon. On commence de nouveau à s'intéresser à lui. Et je dois dire que l'Olympiade, l'année dernière, a eu un énorme succès critique. Donc j'espère que ce sera l'occasion de redécouvrir pour le public français d'autres œuvres créées sur scène et aussi à réenregistrer.
Cette nouvelle mise en scène, fruit d'une coproduction des maisons d'opéra de Prague, Dijon, Caen et Luxembourg, a fait l'objet d'un film documentaire de Petr Václav, jeune cinéaste tchèque installé en France. Le réalisateur évoque son nouveau projet, un film entièrement dédié à Józef Myslivecek.
En fait, c'est un projet de long métrage que j'ai écrit grâce à l'Académie de France à Rome. J'étais pensionnaire à la Villa Medici où j'ai mené de nombreuses recherches concernant cet auteur qui est d'origine pragoise mais qui s'est exilé en Italie au bout de 4 ans de séjour à Venise et à Florence. Il fait une carrière énorme. Il écrit pour Naples, pour les plus grandes, pour toutes les maisons en fait, d'opéra en Italie. Des années 70 du 18e siècle, il devient un peu inspirateur de Mozart, ennemi de Mozart. Mozart a 14 ans quand il se rencontre, lui, il en a 30. Mais comme il est syphilitique, il meurt prématurément. Il a 44 ans quand il meurt à Rome. Et voilà donc mon film sur cet homme, sur son œuvre, sur sa musique.
La conférence a été symboliquement couronnée par un concert intitulé « Il Divino Boemo », ouvrant la deuxième saison du cycle très apprécié « Hviezdy de barokní opery », « Étoile de l'opéra baroque », qui est une initiative conjointe de la Philharmonie tchèque et de l'ensemble baroque de renommée mondiale Collegium 1704. Son fondateur et chef d'orchestre, Václav Lux, nous a présenté le programme de ce premier concert qui, quelques heures plus tard, s'est achevé sur une ovation debout d'un Rudolfinum comble et enchanté.
Koncert je výjimečný již přítomností solistky Vivica Jeno, která patří skutečně bez...
Nous avons pu accueillir la cantatrice Vivica Jeno, une des plus grandes célébrités de mezzo-soprano. Nous avons préparé un programme d'opéra italien de la seconde moitié du XVIIIe siècle en nous focalisant sur les œuvres de Józef Myslivecek, mais aussi de Christophe Willibald Gluck, un autre compositeur dont la vie était fortement liée au pays tchèque. La confrontation de ces deux compositeurs forment la base de notre programme, le tout étant complété par la musique de Mozart, qui est la figure de liaison entre ces deux personnalités.
Collegium 1704
poursuivra le cycle avec un concert de Pâques le 15 avril prochain. La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. La charmante petite commune de Bolkov, au pied de Tcherna Hora, la montagne noire dans les monts des géants, est la destination de ce magazine touristique dans lequel Radio Prague vous invitera aussi au musée de Vrchlabí, à une exposition consacrée au cadre naturel des plus hautes montagnes tchèques. Telle est la destination de ce magazine touristique de Radio Prague, aujourd'hui avec Jaroslava Gisubelova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
À 2 heures de route de Prague, dans le nord-est de la Bohême, se trouve Bolkov, une commune nichée dans la vallée d'un ruisseau éponyme au pied de la montagne Noire. Les origines de Bolkov remontent à l'an 1515 et sont liées à l'extraction de l'or, de l'argent et de minerais de fer. La plupart des maisons à colombages qui portent le ruisseau ont une longue histoire témoignant de la colonisation médiévale des monts des géants. Plusieurs d'entre elles offrent un logement agréable aux visiteurs qui, s'ils viennent pendant la période printanière, sont témoins d'un phénomène unique qui ne se rencontre que dans les forêts locales. Des champs de nivéoles y poussent par milliers sous les arbres défeuillés. Or, Bolkov offre d'autres curiosités encore. Notre premier arrêt est à l'église Saint-Wenceslas, édifiée au XIVe siècle et remaniée dans le style Renaissance par l'architecte local d'origine italienne Carlo Valmadi. Les travaux ont été alors financés par le propriétaire du domaine, Hannibal Wallenstein, dont la pierre tombale est intégrée dans un mur de l'église. De l'autre côté du ruisseau se dressent les ruines d'une église évangélique, la plus ancienne dans les monts des géants. La communauté évangélique l'a fait construire après la promulgation de l'édit de tolérance par l'empereur Joseph II. L'église a été consacrée en 1796, raconte Olga Hajková, directrice du musée des monts des géants à Vrchlabí.
Do té doby celých 200 let se scházeli ve volné přírodě k tajným bohoslužbám.
Jusque-là, pendant plus de 200 ans, des messes clandestines étaient célébrées à ciel ouvert à un endroit dénommé Grindl, dissimulé sous les couronnes de tilleuls plantées en cercle. En hiver, les protestants se réunissaient dans des granges et des fermes. L'église hussite tchécoslovaque est devenue propriétaire de l'église en 1945, après le transfert de la population allemande.
Les près de 250 habitants vivant avant la Deuxième Guerre mondiale à Bolkov ont été transférés. La communauté évangélique y a cessé ses activités en 1948. L'église dévastée risquait de tomber en ruine. Pour éviter le pire, sa coupole a été arrachée en 1991. L'état de l'église, qui ne cessait de se détériorer, n'a pas laissé indifférents les habitants actuels et anciens de Bolkov pour lesquels il s'agit d'un endroit mystique chargé d'histoire, car selon la légende, Comenius aurait séjourné dans cette paroisse lors de sa fuite en 1628 à Leszno en Pologne. En 2010, des personnes enthousiastes à l'idée de la sauvegarde de l'église ont créé l'Association des Amis de Bolkov. À ce jour, ses membres ont nettoyé et rénové les tombes du cimetière entourant l'église. Leur souhait est de conserver les ruines de la plus ancienne église évangélique dans la région. Pour le faire, l'association s'est ralliée au projet de valorisation des monuments de la réforme qui est financé avec des fonds européens. Une autre mention écrite de Bolkov de 1550 est liée à l'édification d'un bief allant du ruisseau Zlatý Potok au pied de la montagne noire et servant à l'origine à transporter des minerais et plus tard à faire marcher divers ateliers dépendant de la force de l'eau. Aujourd'hui encore, on aperçoit près des dernières maisons de Bolkov les vestiges d'un ouvrage hydraulique ingénieux qui aidait à approvisionner en eau une brasserie fondée ici en 1550 par Jiří de Wallenstein. Grâce à ce bief, bien d'autres services ont pu fonctionner à Bolkov, dont un atelier du tourneur ainsi qu'une manufacture de bardeaux, ainsi que l'observe Olga Hajková.
Le canal d'irrigation allait de la montagne noire jusqu'au ruisseau de Bolkov, dont le cours a ainsi été renforcé. Cela a permis la mise en service de plusieurs productions, dont en premier lieu des moulins.
Le bief est resté en service pendant près de 400 ans. Son activité a pris fin avec le transfert d'après-guerre de la population allemande. Selon un recensement effectué en 1939, Bolkov comptait 70 maisons, une école, deux auberges, un bureau de poste et plusieurs magasins. Aujourd'hui, Bolkov n'a qu'une cinquantaine d'habitants permanents, sans compter ceux qui ont une résidence secondaire. La commune est située en emplacement stratégique au carrefour des routes menant à Vrchlabí, Hostiné et Trutnov, trois importantes villes des monts des Géants. Dans les environs les plus proches de Bolkov, un site qui vaut le coup d'œil, c'est Zlatá Vihlídka, une tour panoramique haute de 22 mètres, offre des vues des monts Orlické à l'est jusqu'au mont Ještěd à l'ouest. Droit devant nous se dresse la montagne noire, avec la station de départ de la télécabine reliant la ville thermale de Janské Lázně au sommet de la montagne noire, qui se situe à 1299 mètres et qui est le point de départ de différentes pistes. À une dizaine de kilomètres à l'ouest de Bolkov se trouve la ville de Vrchlabí, considérée comme la porte des monts des géants. Le musée des monts des géants y a son siège dans trois jolies maisons à colombages situées en haut de la place centrale, ainsi que dans les locaux de l'ancien couvent des Augustins de 1705. La directrice du musée, Olga Hajková, nous sert de guide à une exposition consacrée au cadre naturel des plus hautes montagnes de République tchèque.
Nous voilà dans l'exposition écologique intitulée « La pierre et la vie » qui occupe la grande partie du rez-de-chaussée du couvent et l'ensemble de ses espaces souterrains. Inaugurée en 1984, l'exposition est conçue comme une sorte de théâtre présentant le patrimoine naturel montagnard. La salle principale de l'exposition est consacrée à la toundra arctoalpine qu'on peut rencontrer sur les crêtes et qui occupe 4% de la superficie du parc national des Monts des Géants. La toundra est un phénomène typique des Monts des Géants. On ne le trouve nulle part ailleurs en République tchèque.
Comme on l'apprend sur l'un des panneaux, la protection de la toundra est le premier objectif suivi par son inscription en 1992 dans le réseau des réserves biosphériques de l'UNESCO. L'exposition présente un autre phénomène typique des monts des géants, celui des systèmes anémo-orographiques, étant à l'origine de la haute diversité végétale dans les cirques glaciaires de ces montagnes, ils peuvent s'expliquer par l'interaction de la circulation des vents et de la configuration du terrain, comme l'explique Olga Hajková.
Ces systèmes sont responsables, entre autres, de l'accumulation de la neige sur les hauts plateaux des monts des Géants. Sous certaines conditions climatiques, la neige glisse vers des reliefs karstiques en forme d'avalanche. L'effet des avalanches dans les monts des Géants n'est pas que négatif. Elles influent positivement sur la nature montagnarde du fait que les versants déboisés exposés aux avalanches produisent une riche et rare végétation de haute diversité. L'exposition présente aussi un minerai qui, s'il avait été exploité, aurait changé à jamais l'image des plus hautes montagnes tchèques. On écoute Olga Hajková.
Ce minerai rare qui s'appelle le scélite contient la wolframite, qui est un métal très recherché pour la fabrication d'aciers spéciaux. Pour cette raison, une prospection a été organisée dans les années 1950 dans la vallée Objidul, qui a constaté de très faibles concentrations de cet élément. Ceci a évité l'extraction de ce minerai qui aurait eu des effets dévastateurs pour le patrimoine naturel précieux de la vallée et ses environs.
Avant de retourner à Prague, notre dernier arrêt est dans la ville déjà mentionnée ci-haut, Hostiné, dont le nom pourrait être traduit en français comme accueillant hospitalier. Ici, dans un ancien monastère franciscain désaffecté, se trouve une véritable curiosité que personne n'aurait cherché dans les monts des géants. Une galerie d'art antique avec des œuvres uniques comme Niké, Homère ou Trajan. Il s'agit d'une collection réunie par l'université Charles est déplacé en 1965 des locaux du Clémentinum dans la ville de Hostiné.
Et c'est avec ce voyage culturel, historique et géographique que s'achève l'émission de ce jeudi 20 mars. Merci d'avoir suivi notre programme qui vous a été présenté par Sonia Yaroshova. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la totalité de notre programme en visitant le site internet de Radio Prague, www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.